Explore, un podcast de l'Église évangélique réformée de Suisse pour découvrir l'Église qui arrive et un monde transformé par la foi. Je suis Elio Jaillet, chargé de théologie et d'éthique pour l'Église évangélique réformée de Suisse. Et pour la troisième saison de ce podcast, nous partirons du terrain ecclésial, des histoires qui s'y vivent, pour identifier des thèmes et des enjeux cruciaux pour le monde dans lequel nous vivons. En somme, identifier des réalités dont il faut qu'on parle. Chaque épisode commence avec un récit. Ce premier sera donné par Jérôme Grandet. On l'écoute.
Quelques semaines après mon engagement, on m'intègre dans un groupe de travail, une plateforme, une task force, je ne sais pas comment il faut appeler ça, sur la thématique de l'accompagnement spirituel. Et on me dit, ben voilà, on va réfléchir en tant qu'institution, quel pli on va prendre, est-ce qu'on va plutôt rester sur quelque chose de aumônerie traditionnelle à l'ancienne, est-ce qu'on va plutôt partir dans la ligne d'un accompagnement spirituel compris au sens large, est-ce qu'on va intégrer ou pas des outils cliniques qui sont utilisés comme au CHUV ou dans d'autres institutions. Et puis on me dit, ben toi avec ton profil un peu spécial, qui vient de l'extérieur, parce que initialement je suis pas de l'Église réformée. On me dit ben toi, on aimerait bien que tu puisses apporter ton point de vue, que tu puisses apporter quelque chose, un peu comme un pas de côté, un peu si tu veux. Et puis et puis du coup on fait la première séance. Je me retrouve avec plusieurs collègues. Je fais la connaissance de plein de nouveaux collègues, tous au demeurant très sympathiques au premier abord. La séance a lieu, et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'en amont, ma responsable m'avait dit « j'aimerais bien que tu puisses prendre à terme des responsabilités dans ce groupe-là, dans ce groupe de travail, que tu puisses avoir un rôle, pas de responsable, mais un rôle actif, ouais. La séance se passe, on a des premières discussions, etc. Et à la fin de la séance, en fait, en aparté, donc pas devant tout le monde, une personne s'approche de moi et me dit écoute, je suis désolé, mais je comprends pas ce que tu fais dans ce groupe de travail là parce que t'es ni diacre ni pasteur, tu n'es pas consacré, et j'aimerais bien comprendre ce que tu fais ici. Et en fait, ça a été la première fois où vraiment on est venu me questionner sur mon rôle de laïc, de permanent laïc, dans le cadre de l'Église. Par la suite, j'ai appris très rapidement, parce que ma responsable était elle-même laïque, et par d'autres collègues laïcs, que c'était quelque chose de récurrent, et puis qu'il fallait que je développe un cuir un peu épais par rapport à ça, quoi, si je voulais un peu tenir sur la longueur, quoi.
Merci, un récit en jeu. Cette fois pour commencer, merci Jérôme. Tu as lâché le mot, tu es permanent laïque.
Je suis permanent laïque.
Ouais. Pour l'Église évangélique réformée du canton de Neuchâtel, l'Église
réformée
évangélique, non, c'est juste de le poser comme ça, du canton de Neuchâtel. Ces temps, les églises passent par une phase, on dit, de crise RH. Voilà, il y a un manque de candidats au ministère pastoral, ministère diaconal, on parle théologie des ministères. Et puis ça fait quelques années que les églises expérimentent justement avec des nouveaux profils professionnels. Alors on a donné différentes casquettes à cette notion, on a parlé de ministère émergent. Dans le canton de Vaud, on parle de poste d'animateur d'église. Ailleurs, on a des chargés de prédication, enfin voilà. En somme, on commence à faire de la place à des profils de personnes qui n'ont pas le parcours traditionnel de formation, qui n'ont pas forcément les statuts non plus traditionnels, et on leur donne des postes et des responsabilités dans nos églises. Et voilà, je me suis dit, je voulais avoir un entretien avec toi à ce sujet. Voilà, tu nous as donné déjà un peu une couleur, peut-être des enjeux qu'on peut croiser quand on est... qu'est-ce qu'il faudrait dire, ministre non consacré au service de l'Église et de sa mission. Et ton profil me paraissait intéressant parce que justement, tu n'es pas socialisé réformé au départ, peut-être on dira deux mots, et puis en même temps, tu as une réflexion personnelle assez, assez approfondie, voilà, que ce soit dans le registre de la sociologie, l'anthropologie un petit peu aussi, philosophie beaucoup, philosophie politique aussi, mais aussi de la théologie. Voilà, on peut te lire sur ton blog personnel. Mmh. Donc voilà, t'es pas du milieu réformé, mais en même temps, bah, t'es quelqu'un qui a une réflexion personnelle assez approfondie. Et je me suis dit que ça serait intéressant, voilà, de parcourir avec toi les enjeux de ces ministères, on va dire, ministère émergent, au nouveau ministère au sein des églises, et d'identifier un peu, voilà, qu'est-ce qui se passe à cet endroit, comment on va de l'avant, et puis, voilà, à la fin, quels sont les enjeux qu'on aimerait garder, tout en sachant qu'on parle de l'Église, mais que finalement la question de l'évolution des institutions, notamment de l'évolution des profils professionnels, ne concerne pas que les Églises. Peut-être qu'on a quelque chose de plus large à apprendre sur l'expérience qu'on est en train de mener sur le terrain ecclésial. Voilà un peu pour le pitch thématique, mais peut-être on va reprendre juste quelques bases. Je l'ai un peu annoncé tout à l'heure, voilà, la terminologie est flottante. Dans les reines, il existe donc des permanents laïcs. Toi, tu es un permanent laïque. Qu'est-ce que c'est ?
Alors moi, en tant que permanent laïque, je suis une personne engagée, donc un professionnel engagé par les reines, mais qui n'a pas été consacré diacre ou pasteur. Et on est, si je ne dis pas de bêtises, on est à ce jour trois. J'en ai trois qui me viennent comme ça en tête. Deux en plus de moi, une collègue qui est en paroisse, qui est permanente laïque en paroisse, et une autre collègue qui est permanente laïque à l'aumônerie hospitalière. Voilà. Et moi qui suis dans les EMS et en psychiatrie.
D'accord. Et donc non consacré, ça veut dire que vous n'avez pas fait tout un parcours de formation qui vous mènera à ce qu'on appelle la consécration, qui est en fait une forme de reconnaissance du ministère et de la vocation personnelle dans ce ministère.
Oui, c'est ça.
Donc ça, vous n'avez pas fait.
Non.
Par contre, vous êtes employé quand même, voilà, pour participer à la mission de l'Église.
C'est ça.
Il y a plus de détails que ça ou pas forcément?
Non. Bon, en fait le travail que je fais est le même que tous les autres aumôniers qui sont aussi diacres ou pasteurs. C'est-à-dire que je m'occupe de l'accompagnement spirituel des patients, des personnes, en EMS, en psychiatrie ambulatoire. Je m'occupe d'animer des cultes. J'anime 6 cultes par mois, culte / groupe de parole, ça dépend des lieux d'insertion. Et en tant qu'employé, envoyé dans les institutions, j'ai une... Donc le conseil synodal renouvelle chaque année une délégation pastorale pour ce qui est la célébration de la scène, la célébration du culte, etc.
C'est qui tes responsables? Peut-être deux questions pour moi qui sont des questions d'organisation, mais ça joue peut-être un rôle. Du coup, c'est qui tes premiers référents responsables et c'est quoi ton lien du coup au niveau des employés, dans l'église, avec les autres justement, que sont les pasteurs, les diacres, les ministres consacrés?
J'ai deux responsables directs qui sont le responsable RH et le responsable des services cantonaux, donc c'est un peu le chef des aumôniers si tu veux. Et puis dans le cadre de mon engagement, je fais partie du colloque des aumôniers, en EMS. On se retrouve régulièrement pour et croiser nos pratiques respectives, échanger sur les différents lieux d'insertion, aussi sur les différentes personas, parce qu'on a on a des personnalités différentes et puis des backgrounds différents. Il y en a qui sont vraiment des diacres ou des pasteurs classiques, et puis moi qui viens de l'externe, quoi. Et puis du coup, forcément, il y a des points de vue qui se... Voilà.
Ça, c'est un peu les... Qui des fois se rejoignent et des fois frottent.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Et puis, une fois par année, on se retrouve avec tous les permanents de l'RN, où là, je peux côtoyer des collègues côtoyer un peu plus, approfondir un peu plus le lien avec des collègues qui travaillent en paroisse ou dans d'autres aumôneries. Et puis, dans le cadre de l'aumônerie à l'espace Oscar Pfister en psychiatrie ambulatoire, ça m'arrive de collaborer soit avec des aumôneries connexes ou qui travaillent à côté de moi, comme l'aumônerie de rue, qui s'occupe aussi de personnes dites, j'aime pas ce terme, mais dites un peu en marge. Et puis, avec les collègues en paroisse, quand il y a une question de volonté d'intégration de la part d'un patient, il dit, moi j'aimerais bien intégrer une communauté spirituelle, ça peut m'arriver d'appeler l'un ou l'autre collègue en paroisse pour collaborer à l'intégration de ces gens.
Ouais, t'es un point, dans le réseau des acteurs ecclésiales, t'es un des points de contact pour un réseau plus large, du coup. La question qui du coup me vient, on reviendra je pense un petit peu sur ce que tu fais concrètement en tant que permanent laïque, parce que ça participe de la réflexion qu'on mène sur ces nouveaux profils professionnels. Mais en amont de ça, on l'a déjà un peu évoqué, mais quels sont les éléments de ton parcours de vie qui t'amènent finalement à ce poste?
J'ai été engagé, c'était avant Covid, donc je suis arrivé dans les Rennes en 2019. Et ça fait suite, alors là, ponctuellement, à ce moment-là, ça fait suite au divorce avec mon ex-femme. Parce qu'avant ça, donc, j'étais aumônier en addictologie pour l'Armée du Salut, dans une maison d'accueil et d'accompagnement pour des personnes dépendantes à l'alcool. Et puis ensuite, il y a eu une fusion dans le cadre cantonal de toutes les institutions qui traitaient des addictions, où ils ont créé à l'époque Addiction Neuchâtel. Et puis, on arrive à un moment où, comme tous les processus de fusion, il y a des trucs qui se passent bien, d'autres trucs qui se passent pas très bien. J'avais déjà vécu la fusion par le prisme de mon père du centre neuchâtelois de psychiatrie. Il y avait eu la fusion du réseau hospitalier neuchâtelois aussi. Puis on voit qu'il y a toujours des angles morts où il y a des collègues qui sont... Bon, il y a beaucoup de collègues qui partaient. Moi, j'étais en plein divorce. J'avais envie de partir parce que la nouvelle situation me plaisait pas spécialement. Mais en même temps, il fallait que je garde quand même un travail parce que j'avais quand même deux enfants à nourrir avec une garde partagée. Et puis, voilà que quelqu'un me dit, mais va voir, il y a les Rennes qui met au concours des postes d'aumônerie. Cette personne-là, c'était mon directeur à l'époque, parce que le directeur de l'institution dans laquelle j'étais aumônier pour l'Armée du Salut était lui-même réformé et membre du conseil synodal.
D'accord.
Et lui me dit, il n'arrêtait pas de me dire, mais écoute, ta prédication, elle est plus réformée qu'évangélique. Il m'avait déjà renvoyé vers les Rennes, vers un poste d'animateur jeunesse. J'avais déjà travaillé comme animateur jeunesse dans les Rennes pendant 2 ans. Et voilà, lui plus d'autres personnes m'ont encouragé à postuler. J'ai postulé et on m'a proposé un 20%. Parce qu'il y avait un poste dans les EMS où il manquait de personnes en fait. Il n'y avait personne à l'interne et puis il n'y avait pas de profil. Personne à l'interne ne voulait de ce poste-là. Okay. Et il n'y avait pas de profil postulant qui correspondait autre que le mien. Donc, voilà, Jérôme, est-ce que tu veux ce poste? Puis moi, troquer un 50 pour un 20 avec des enfants en bas âge, c'était un peu chaud. J'ai refusé, premier abord. Puis ensuite, on est revenu vers moi pour un deuxième poste auquel j'avais postulé, qui était le poste à la psychiatrie hospitalière, où là, j'avais été le deuxième choix, où justement, on avait choisi plutôt une personne déjà consacrée, qui était premier choix, mais qui n'a pas fait long. C'est-à-dire, après 7 jours en psychiatrie, elle a dit non, c'est pas pour moi, je vais pas tenir le coup. Ouais. Et du coup, l'RN est revenu vers moi avec un package de 2 postes. Pourcentage en EMS, un pourcentage en psychiatrie.
Et du coup, c'est viable.
Et du coup, c'était viable. Et j'ai dit, allez, ça me permet de quitter le milieu dans lequel j'étais avec la fusion ou dans lequel je me sentais pas très bien, de découvrir quelque chose de nouveau, puis d'avoir un CDI avec une situation stable pour bêtement nourrir mes enfants et payer les factures, quoi.
Ok, ça c'est donc le chemin qui t'amène finalement à avoir ce poste. Et du coup, ça veut aussi dire que, en fait, t'as déjà une pratique d'aumônier avant d'arriver comme aumônier, donc c'est pas dans le contexte réformé que tu découvres la pratique.
J'avais déjà fait mon CPT à l'époque.
Ok,
Donc j'ai fait mon CPT en 2016,
CPT,
Clinical Pastoral Training, donc c'est le minima, je crois, demandé par l'Église réformée pour exercer en tant qu'aumônier.
Et ça consiste en quoi? Je pense qu'il faut déployer un
petit peu. C'était un stage, à l'époque, c'était un stage de 7-8 semaines, 7 semaines. Que j'avais fait au CHUV, intégré dans les unités, que j'avais fait spécifiquement en psychiatrie, pour le coup, avec terrain clinique, supervision, etc. Quoi. C'était en gros 50% du temps en clinique, 50% du temps en supervision, en travaux de groupe, avec beaucoup de retours sur soi, où t'es essoré un peu dans tous les sens. C'est une des deux formules, je ne sais pas si ça existe encore, aujourd'hui je crois que le CPT qui est valorisé, plus, en tout cas, il me semble, du côté de chez nous, c'est celui qui est fait à Montmirail, avec 4 fois 1 semaine de supervision intense où on reprend des vignettes du lieu de travail. Fin.
Ouais, je crois que le paysage a un peu bougé ces dernières années. Il y a aussi un CAS qui est proposé maintenant.
Il y a eu 2 CAS, parce qu'il y a le CAS en accompagnement spirituel qui est proposé. Moi, j'ai fait l'autre. J'ai fait le CAS en santé, médecine et spiritualité.
Ok.
Qui est donné conjointement, qui était ou qui est donné, je ne sais pas, il faudrait vérifier, conjointement par la fac de théologie, sciences des religions et la faculté de médecine.
À Lausanne.
Ouais. Et ça, j'y étais inscrit au moment où j'ai postulé. Donc ça faisait partie des, entre guillemets, garanties, parce que je n'étais pas consacré, je n'avais pas de parcours théologique le parcours théologique normalement qui est demandé pour entrer dans l'Église réformée.
Non.
J'avais une formation d'officier de l'Armée du Salut, en fait, que j'ai faite sur 2 ans, qui était un équivalent de 120 crédits ECTS, mais qui était d'obédience évangélique.
C'est une formation interne. Ben, comme nous, effectivement, dans les milieux réformés, on a nos propres lieux de formation interne. Je pense aux expos théologiques, je pense à cette formation, l'atelier œcuménique de théologie aussi, d'une certaine manière, à Genève. Voilà. Donc, il y a un équivalent à l'Armée du Salut, tu as fait ça.
Ouais. Mais disons, après, il y a une conjonction de choses qui ont fait qu'à ce moment-là, à l'RN, alors déjà la carence, il manquait des gens, ils avaient besoin de quelqu'un.
Ouais.
Le fait qu'au conseil synodal, j'avais mon ancien chef, qui lui a pu attester, non mais j'ai travaillé 6 ans avec Jérôme, c'est bon, c'est compatible avec les Rennes, quoi, avec l'Église réformée. Il y avait mes 6 ans d'aumônerie, plus mes années en tant qu'éducateur, veilleur, en milieu psychiatrique et en addictologie qu'il y avait aussi en amont.
Donc avant que tu sois engagé comme aumônier dans cette institution, dans l'addictologie.
Ouais, okay. Moi je viens du milieu social, santé sociale à la base. Ouais.
Ok.
Je viens pas de la théologie, je viens du milieu santé sociale. L'Armée du Salut ayant un versant social assez fort,
très
assez marqué.
Ouais, bien sûr.
Bah du coup, j'étais dans un terreau qui me correspondait à ce niveau-là. Mm-hmm. En termes théologiques, bon bah j'étais
ailleurs.
J'étais ailleurs, c'est clair. Beaucoup plus libéral, beaucoup plus tenant de méthodes ou de lectures, disons, historico-critiques ou qui n'ont pas vraiment cours dans ces milieux-là. Mais c'était OK, je me sentais bien dans ce poste-là, quand même. Et puis, surtout, il y a eu toutes ces conjonctions-là qui ont fait que j'ai pu arriver dans les Rennes. Et puis aussi, j'ai eu un entretien d'employabilité, tout simplement, avec le président du conseil synodal de l'époque, la responsable RH, et l'ancienne responsable des services cantonaux, donc des aumôniers, où on m'a quand même posé quelques questions d'ordre théologique sur ce que je croyais, ce que je croyais pas, est-ce que j'étais OK avec, je sais pas, certaines choses comme est-ce que c'est OK pour toi si on consacre des personnes
homosexuelles, par exemple.
Ouais. Puis ils voulaient vérifier que j'étais compatible, RNO compatible, si tu veux.
C'est vrai que ça correspond un peu à des questions qu'on nous pose des fois aussi, nous, dans les parcours de conseil. Moi-même, je suis candidat au ministère pastoral et donc à la consécration au ministère pastoral. Et c'est vrai qu'une des questions qu'on pose, parfois, ça lie dans le contexte au pédobaptisme, est-ce qu'on est prêt à baptiser des enfants ou pas.
Ouais, voilà. Alors, il y a eu tout ça. Il y a eu cette somme de conjonctions-là qui ont fait que mon parcours a été reconnu. Et puis, voilà, je crois qu'il y a eu aussi une conscience. Enfin. Ça a été posé, que certes j'avais un background d'origine évangélique, mais qu'il y avait une forme de recul et puis de réflexion par rapport à ça. Le fait que le conseiller synodal, qui était mon directeur, m'ait entendu prêcher à plusieurs reprises dans le cadre de l'Armée du Salut, il connaissait ma théologie, il connaissait ma manière de parler, il connaissait ma manière de travailler. Donc je suis arrivé en tant qu'inconnu, mais pas complètement.
Ouais. Est-ce qu'à partir de là, donc tu nous as décrit là maintenant un petit peu qu'est-ce qui précède ton engagement, qu'est-ce qui y amène. On voit que c'est pas un parcours linéaire.
Non.
Et qui illustre quand même aussi des difficultés que les églises réformées ont maintenant à pourvoir leur poste. Enfin, ça fait partie sans doute de la situation qu'on est en train d'essayer de penser. Peut-être tu peux dire un tout petit peu plus de ce que tu fais comme accompagnant spirituel dans tes différents lieux d'engagement. Il y en a 2 en ce moment.
Il y en a plus.
Alors, tu pourras préciser.
Il y en a plus. Oui.
Mais bon, peut-être indépendamment des lieux précis, mais comment tu comprends ce que tu fais? Et puis, l'autre élément, c'est un peu la motivation. C'est dans quoi tu ancres tout ça, d'un point de vue personnel, en termes de. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des expériences fondatrices qui jouent un rôle par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une vision du monde, de la foi? J'en sais rien, de l'évangile ou quelque chose. Enfin voilà, dans quoi ça, c'est quoi les références qui jouent un rôle structurant pour cette activité.
Okay.
Peut-être encore, on est un peu en train de décrire là, plutôt encore, mais je pense que ça pourrait être intéressant d'entendre ça encore.
Ouais. Donc je suis inséré dans plusieurs lieux. J'ai un bon pourcentage dans les EMS, dont le plus grand EMS du canton de Neuchâtel, où je suis aumônier. Il y a un tout petit pourcentage à foyer handicap, des 2 antennes de foyer handicap Neuchâtel, et puis j'ai un 40% à la psychiatrie ambulatoire. Psychiatrie ambulatoire qu'il faut comprendre au sens large, c'est-à-dire que c'est pas simplement des personnes qui sortent du milieu hospitalier, puis qui sont à domicile, ça va de ces personnes-là, de patients qui sont directement touchés par une crise ou qui en sortent, au soutien de personnes qui traversent soit des deuils compliqués, des burn-out. Il y a aussi des proches aidants qui viennent me voir pour des questions d'ordre spirituel en lien avec... c'est souvent la démence d'un conjoint ou d'une conjointe, parce que c'est souvent des personnes plus âgées. Ou il y a aussi quelquefois des membres de personnel d'institution qui touchent à la psychiatrie d'une manière ou d'une autre, qui viennent me poser des questions. Parce que bon, la psychiatrie neuchâteloise, c'est petite. Mon père y a travaillé pendant de nombreuses années. Mon père, pendant 42 ans. Mon frère, il travaille comme éducateur. Moi-même, j'ai été éducateur. Donc,
Tu es du milieu, quoi.
Ouais. Mais du coup, c'est petit. Puis ben, c'est vrai que de temps en temps... En plus, en ayant travaillé au CNP, en ayant travaillé à Addiction Neuchâtel, au Devin, toutes ces institutions-là du canton, ben, ça fait qu'il y a des fois des collègues qui m'appellent en me disant « Ah, tel patient, il y a tel enjeu d'ordre spirituel, est-ce que soit des questions de typologie, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est, quoi, quand, comment, ou est-ce que tu peux nous conseiller, vers qui l'orienter, etc. »
Enfin, donc une compétence sur le sujet, mais aussi quand même une ressource dans un réseau, en fait.
Ouais. En tout cas, de la part d'anciens collègues ou de personnes que je connais, quoi. Maintenant, en termes d'accompagnement, c'est vrai que moi, une de mes figures principales, ce que j'ai appris au CPT, en fait, en 2016. Quand j'ai fait la formation, c'était Carl Rogers, puis l'accompagnement centré sur la personne. Ce qui m'intéresse, moi, c'est quel est le besoin de la personne qui est en face. Quel est son questionnement, qu'est-ce qu'elle traverse comme crise, comme moment signifiant, tu vois, peu importe, ce qui m'intéresse, c'est la personne. Du coup, ben, ça va, enfin, les demandes, elles vont de Sainte-Seine, classique, à vraiment des accompagnements de personnes qui sont dans des spiritualités qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne.
Donc, les demandes vont de Sainte-Seine classique, c'est-à-dire quoi, de participer ?
Des patients qui se déclarent réformés, puis qui demandent une Sainte-Seine en chambre, tu vois. Sainte-Seine, très classique. Moi, je viens avec le pain, le jus de raisin, une liturgie classique.
Ouais. Pourquoi tu dois avoir la délégation pastorale, d'ailleurs, pour pouvoir faire
ça. Par exemple, oui. Et puis, ça va de ça, vraiment, à des accompagnements de personnes qui ont des spiritualités qui n'ont rien à voir avec la spiritualité chrétienne, mais où le moment charnière dans lequel ils sont, qui peuvent être, je sais pas, une crise en lien avec une pathologie psychique, qui peuvent être l'annonce d'une maladie, en EMS, ou un deuil, où ça vient questionner, quoi. Et puis il y a des choses à articuler, qu'est-ce qui est ressource, qu'est-ce qui est perturbation dans la spiritualité, comment prendre ce qui est bon, lâcher ce qui, tu vois. Et puis voilà, donc j'accompagne les gens à ce niveau-là. Ça, c'est pour tout ce qui est de l'accompagnement, donc c'est très large, quoi. Et puis y a une grosse partie cultuelle. Tous les jeudis matin, je dois animer un culte dans le cadre d'un EMS, plus deux fois par mois dans d'autres EMS. Voilà, ça prend pas mal de temps quand même, 6 cultes par mois, ça prend quand même pas mal de temps.
Oui.
Tu sais,
je sais, et puis moi j'en fais pas 6 par mois, donc.
Je peux reprendre, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. En fonction de.
Si je m'en rends pas compte, mais j'imagine qu'un culte en EMS, c'est peut-être pas une heure.
Non. C'est 45 minutes, un peu moins.
Non, mais bon, le temps de préparation ne doit pas être très très différent, du coup. Ok.
Et puis voilà, en gros, ça, c'est ce que je fais. Moi, j'ai aussi une activité cantonale, c'est-à-dire que je suis secrétaire de la SEMPEREN, qui est un peu le syndicat. La SEMPEREN, l'Assemblée des employés de l'EREN.
On connaît ces acronymes, mais aller chercher ce qui se cache derrière, c'est des voix plus délicates.
C'est en gros secrétaire du syndicat, quoi. C'est-à-dire que c'est nous que les collaborateurs viennent chercher quand il y a certaines questions.
Oui, j'identifie des équivalents dans mon contexte cantonal aussi. Ok. Les référents pour les employés, le syndicat, comme tu dis, le syndicat. Okay.
C'est nous qui pouvons aller interpeller le responsable RH, le conseil synodal, ou fonction de choses qui pourraient émerger chez les collègues.
Voilà. Mais ça veut dire, bon, quand j'entends ce que tu fais, comme je me représente, c'est effectivement, ça correspond quand même aussi à tout un nombre d'activités qui sont mises en œuvre par des personnes consacrées, habituellement, comme tu as dit, le plan cultuel. En même temps, tu débarques avec un réseau qu'on a pas forcément dans le milieu réformé. Alors on peut, enfin tu me diras, ça c'est l'histoire personnelle, mais tu débarques avec un réseau et une expérience que pas tout le monde a, quoi. Donc j'imagine il y a un enjeu là derrière pour ton profil aussi et l'intérêt pour ce profil. Mais oui, du coup, ce que j'identifie, c'est que tu es quand même déjà bien planté dans la structure. En fait, je veux dire, c'est pas que t'es marginal dans le. Dans, si je pense à la place que tu prends, c'est pas, t'as pas, oh, juste un petit 20% dans un coin.
Alors, j'ai commencé avec un 50, ouais, avec un 20 en EMS et un 30 en psychiatrie. Une collègue de la psychiatrie est partie à l'époque et on m'a donné un pourcentage en plus parce qu'il restait que moi sur le lieu hospitalier où j'étais. Puis il se trouve que ça marchait bien, donc on m'a fait confiance un peu plus. Puis ensuite, on a augmenté le pourcentage en EMS aussi. Ouais. Et puis de fil en aiguille, je me retrouve maintenant avec un 90.
Ouais, quand même. Donc une entrée progressive, mais aussi une forme d'établissement.
Qu'une forme de reconnaissance aussi.
Ouais. Là, donc voilà, donc ça c'était pour dresser un bout de portrait, peut-être qu'il y a encore d'autres éléments qui vont apparaître au fil du chemin. Maintenant, tu as raconté, on revient peut-être à cette histoire que tu as lancée, on va peut-être... Ah. C'est quoi les éléments qui te marquent quand tu arrives? En fait, c'est ça la question qui suit pour moi. Alors là, on voit qu'au fond, ça a continué, hein, ton implémentation dans le cadre de l'RN. Mais quels sont du coup les éléments marquants que tu observes, qui t'arrivent quand tu arrives dans cette église en tant qu'employé pour ce poste? Voilà, avec un chemin non linéaire pour arriver à ce poste. Et du coup, en tant que permanent laïque, voilà, vous n'êtes pas une majorité, vous êtes plutôt minoritaire dans cette construction, mais vous êtes quand même là et vous avez votre place. L'Église innove, l'Église teste de nouvelles choses, de nouvelles voies pour répondre aux impératifs du moment. Voilà. Mais toi, qu'est-ce que tu remarques quand tu commences? Alors, ça peut être au début, ça peut être des choses que tu vois encore maintenant, enfin voilà.
Alors c'est les deux, c'est ce que j'ai remarqué au début, puis ça c'est ma compréhension de ça, c'est ma compréhension, ma lecture de ça s'est affinée après avec les années, mais très 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 vite, disons à cette séance-là, et puis après ça n'arrête pas.
Donc la séance où tu étais dans ce groupe de travail, ouais, exactement, qui devait réfléchir sur le développement de l'accompagnement, ouais, spirituel.
Il y a la question du statut en fait, ça c'est vraiment le truc qui me marque d'emblée, d'entrée, puis qui continue de m'accompagner, c'est la question du statut. C'est pourquoi est-ce que, d'abord c'est tu n'es pas diacre, et puis après au fil des mois, c'est mais pourquoi est-ce que tu n'es pas diacre? Est-ce que, alors au début ça se matérialisait par, mais tu sais, il y a une formation diaconale qui existe, peut-être pour fermir ton statut, pour vraiment être bien dans tes fonctions, tu pourrais faire cette formation diaconale.
Ça stabiliserait, ça te ferait rentrer dans les... J'ai envie de dire ça comme ça, ça te ferait rentrer dans les clous et le système connaît, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis, en même temps, je comprends. Puis en même temps, la conjonction dont j'ai parlé avant fait que mes compétences, mon rôle, ma fonction ont été reconnues par une autorité en place. Et puis, donc en fait, il n'y a pas à discuter de pourquoi pas laïque, pourquoi machin.
Bon, t'es là.
Je suis là, j'ai été engagé, j'estime être dans ma vocation.
Et puis, c'était pas une condition à l'emploi. C'est-à-dire qu'au moment où tu es engagé, il n'y a personne qui te dit « bon, vous êtes là, mais c'est en attendant que vous deveniez diacre, quoi. »
C'est ça. Okay. Donc il y a ça au début... Puis qui me questionne un peu, je me dis, ça va se tasser. Ça va se tasser. Au bout d'un moment, les gens vont arrêter. Et puis, ça fait maintenant, depuis 2019 que je suis là, donc ça fait gentiment 7 ans. Et en fait, en 7 ans, ça ne s'est pas tassé. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, je pense que... Alors avant, c'était pas une semaine. Aujourd'hui, c'est pas un mois ne passe sans qu'il y ait des collègues qui viennent... se permettre de m'interpeller sur mon statut de laïque, peut-être que tu devrais, peut-être que... Puis au bout d'un moment, au début, tu le prends un peu comme... c'est normal, c'est un peu le... Je le dis comme ça, mais c'est pas péjoratif, mais l'animal de foire qui débarque, tu sais, on vient questionner, on vient voir. Au fil des ans, ça se transforme un peu en pression, quand même.
Oui, parce que ça fait... Non, on a dit le nombre d'années, maintenant, ça fait combien de temps ? 7 ans ?
Ouais. Ça se transforme un peu en pression, et puis il y a encore autre chose. Et puis alors ça, je le dis moi, mais je me... permet de me faire aussi le porte-parole d'autres collègues laïcs qui l'ont aussi vécu, avec qui on en a parlé, c'est la question de... On tourne ça un peu à la dérision. C'est pour essayer de faire passer le truc, on essaye d'en rigoler, parce que c'est bien de faire... Puis c'est bien de faire preuve d'autodérision. Mais c'est vrai qu'il y a cet humour ambiant qui dit, les diacres ne sont que des diacres par rapport aux pasteurs. Et puis, vous, les laïcs, vous êtes un peu des doubles queues. Vous êtes un peu des queues. Des queues par rapport aux diacres et des queues par rapport à la vénérable classe, tu vois. Et au début, la première fois, c'est rigolo. Ouais. Jusqu'au jour où je suis en face d'un stagiaire qui fait « Ah, queue ». Puis je dis « Oh, mais toi, t'es stagiaire, triple queue ». Et là, déconfiture. Et je me dis « Ah ouais, ok, donc c'est un humour qui passe, mais dans lequel il ne faut pas trop non plus rentrer. » Parce qu'en fait, plusieurs collègues diacres m'ont confié que effectivement c'était un humour qui pouvait parfois être blessant. Et les laïcs, effectivement, bah, on est plusieurs à... Au début, tu rigoles, puis au bout d'un moment, tu dis, bon, c'est bon, quoi. On fait notre taf, on montre pas de blanche, on est en fonction, on a été engagé, on a été installé, maintenant, c'est bon, arrêtez, quoi.
Sous-entendu, au fond, il n'y a plus besoin de faire ces allusions.
Ouais, c'est pas nécessaire.
Parce que, enfin, disons ce que... Bon, là, tu dis, en gros, c'est, de votre côté, c'est retourné sur le ton de la blague, mais la question reste, en fait, à chaque fois. C'est ça qui est,
bah,
pour moi,
me paraît
étrange, au bout de 7 ans, quand même.
Parce qu'une personne qui fait une blague une fois, elle, dans sa tête, va se dire, bah, j'ai fait une blague une fois. Bon, moi qui l'entends tous les mois, la blague ou la remarque, en 7 ans, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Ouais. Puis tu commences à te poser la question, mais est-ce qu'en fait, je suis vraiment reconnu pour ce que je fais, indépendamment de mon statut ou pas, est-ce que je suis vraiment... Puis ça met quand même... Même si on développe effectivement un peu un cuir un peu épais, ça pose quand même des questions de sécurité personnelle, dans le travail, dans la reconnaissance qu'on a vis-à-vis des collègues, vis-à-vis de l'institution.
Bon, mais j'imagine que tu as quand même des collègues avec qui tu bosses régulièrement où c'est moins une question.
Bien sûr, oui, bien sûr.
Donc ça, c'est un enjeu, tu dis celui du statut.
Celui du statut. Du coup, ça touche aussi à celui du parcours de formation, qui est un enjeu connexe, parce qu'effectivement, au début, j'étais à 50%. Et puis, j'avais envie d'être un peu plus à l'aise financièrement pour m'occuper de mes enfants. Du coup, j'ai eu postulé, ici ou là, dans des postes dans d'autres cantons.
Oui.
Où là, pour compléter, tu vois, je me dis 50, un 30 ici, un 40 là, comme ça, j'ai un poste complet.
D'autant plus, c'est vrai que les postes en aumônerie, alors peut-être différent pour l'aumônerie en psychiatrie ambulatoire, mais souvent ils sont liés à un espace-temps. Enfin, je veux dire, ça se laisse assez bien organiser sur des temps partiels.
Et du coup, je me dis, bah, j'essaye. Et en fait, dans les différents cantons dans lesquels j'ai postulé, effectivement, on m'a ramené à ça. On m'a ramené au fait, ou dans les propositions de formation, où, on m'a ramené au fait que bah, voilà, ma formation théologique, elle n'est pas réformée, que mon statut était celui d'un laïc et pas de diacre, que certes, j'ai une expérience professionnelle de plus de 10 ans dans la santé et du social, mais que j'ai pas de diplôme équivalent HES, et que du coup, c'était pas possible de m'engager. Et en fait, je pensais naïvement, et en fait, c'est là que j'ai compris en fait que mon engagement dans les RN s'enracinait dans une somme de conjonctions, de convergences qui ont fait que ça a rendu le truc possible, et que là, ben, je débarquais dans des milieux où il y avait personne qui me connaissait, où il y avait, c'était plus compliqué, quoi. Mais du coup, ça m'a posé cette question-là, de me dire, ok, moi, j'ai eu de la chance, j'ai des amis qui sont travailleurs sociaux, qui auraient tout à fait leur place, tu vois, dans les RN, plusieurs personnes qui m'ont dit, déjà, j'aimerais bien devenir aumônier, faire ci, faire ça.
Okay.
Est-ce que tu penses que... Je dis, ben, en fait, au début, je disais, oui, il suffit de postuler, puis maintenant, je lui dis, ben, en fait, non, moi, j'ai eu du bol, quoi. Il se trouve que j'ai eu de la chance que ça pouvait se donner à ce moment-là, avec les différents facteurs en place, mais ben là, t'as pas de, entre guillemets, parce que c'était pas un piston, mais t'as pas de personnes qui te connaissent au niveau des autorités, t'as pas de... Voilà. Et ça, c'est un des enjeux pour moi, c'est qui est-ce qu'on engage, tu vois? Qui est-ce qu'on engage, comment? Qu'est-ce qu'on valorise comme parcours? Moi, ça me pose la question de, est-ce que, tu vois, par exemple, pour la psychiatrie, est-ce que c'est le parcours théologique qui doit être... prioritaire? Est-ce qu'une personne qui a travaillé pendant 10 ans en psychiatrie, à qui on demanderait, tu vois, de faire une formation théologique, serait pas plus indiquée? Ça me renvoie aussi à mon premier engagement comme aumônier pour l'Armée du Salut. Donc j'ai été engagé par ce directeur dont j'ai déjà parlé, qui est au Conseil Synodal. À l'époque, j'étais... Mais là aussi, je suis engagé dans une institution où les gens me connaissent parce que j'y ai travaillé comme civiliste. Voilà. J'ai été civiliste là-bas, à l'atelier ferme, à l'atelier poterie, qui était une institution de réinsertion pour personnes dépendantes à l'alcool. Et voilà que se libère le poste d'aumônier. Et moi, à cette époque-là, il y a les collègues de l'institution, la secrétaire de direction, des MSP, qui me disent « Ah ben, en fait, de ce qu'on voit de toi, on te verrait bien à ce poste-là, en plus tu fais partie de l'Armée du Salut. » Des gens de l'Armée du Salut qui me disent « Ah ben tiens, poste pastoral non, mais aumônerie, ce serait plutôt pour toi. » Et moi, naïvement, je postule en me disant, ben, on ne sait jamais, ça peut passer.
T'as quel âge à ce moment-là, à peu près? Ce fut un temps, il y a longtemps en arrière.
Je dirais que... Alors attends, faudra raponcer, mais...
Entre-temps, il y a des poils gris qui sont venus sur le cuir de mes cheveux.
Non, j'avais... Oh là là. Attends, je réfléchis.
Pas de souci.
Tu couperas, puis tu... RN 2019, 6 ans, 2013, donc je dois avoir 30 ans.
30 ans, ok. Ouais.
Je pense que j'avais 30 ans.
Ouais.
Je crois que j'avais à peu près 30 ans à l'époque. Non, j'avais à peu près 30 ans à l'époque.
Il faut faire les maths.
Oui, oui. Non, j'avais 30 ans à l'époque, mais je postule à ce poste sans aucun prérequis.
Mm.
J'ai pas d'expérience comme aumônier. Aucune. Mm. J'ai pas de CPT. Mm. J'ai pas fini ma formation théologique à l'Armée du Salut. J'ai pas de permis de conduire. J'ai pas fait les formations obligatoires que tous les collègues doivent faire par rapport aux addictions, tout ça.
Ouais.
Donc j'ai rien. Je fais un premier entretien avec la responsable des aumôneries de l'Armée du Salut et le directeur. Un deuxième entretien de groupe avec tous les autres candidats,
mmh.
où on visite l'institution, etc. Et puis ça, ces entretiens, tu sais, où on mesure un peu comment est-ce que tu t'impliques socialement, est-ce que tu poses des questions,
mmh,
est-ce que...
Mmh.
Puis moi, comme j'ai bossé pendant plusieurs mois dans cette institution, moi je me dis... J'ai pas de questions à poser, je connais tout le monde. Donc à la fin de cet entretien là je me dis bon bah c'est bon, c'est foutu quoi, vraiment.
Ah, il y aura pas d'interaction,
enfin, pas, j'ai pas d'interaction, j'ai aucun prérequis, zéro interaction, machin, c'est foutu. Et voilà que tout d'un coup le directeur m'appelle et me dit écoute, bah voilà, je sais que sur le papier non, mais moi je le sens bien, puis j'aimerais essayer avec toi.
Okay.
Donc
okay, donc
occasion qui se présente, ouais. Mais j'aimerais essayer avec toi, mais ça veut dire que je veux que dans la première année, tu fasses la formation aux addictions, la formation aux consciences de soi, le permis de conduire,
oui.
Et que tu t'engages à faire un CPT dans ouais. les premières années de...
Ouais.
de voilà.
Okay.
Donc j'ai commencé comme ça.
Un gars qui te donne ta chance aussi, du
qui
coup.
Il m'a donné ma chance,
ouais.
C'est pour ça que je dis maintenant, quand des gens me disent oh, « j'aimerais bien être aumônier », je dis « ben, j'ai eu du bol, en fait, parce que j'ai eu du bol. »
Oui, et puis, enfin, oui, du bol. C'est-à-dire que tu avais effectivement un contexte qui avait un besoin que tu pouvais remplir, mais du bol. Il y a une communauté, mine de rien. Alors, c'est une structure professionnelle, mais c'est aussi une communauté de gens, finalement, dans cette structure qui te reconnaissent. Il y a une communauté qui te porte, quand même.
Je pense que si j'avais pas bossé 6 mois, plusieurs mois dans cette institution, puis que ça s'était pas bien passé, peut-être que j'aurais pas eu ma chance non plus, tu vois.
Ben...
Et du coup, il se trouve que je connais ce membre du conseil synodal à ce moment-là, puis qu'après, au moment où je postule, tu vois, puis ça s'enchaîne comme ça, quoi. Ça s'enchaîne comme ça. Donc, mais au départ, il y a rien. Au départ, il n'y a rien. Et puis après, ben, je fais les formations, je fais le CPT, je fais le CAS, etc. etc.
C'est intéressant. Bah, je fais juste une aparté hein,
ouais.
théologique. Non, je ne sais pas si c'est théologique, mais enfin, petit élément de culture réformée. Non, mais quand en fait, il s'agit de discerner l'employabilité d'une personne, sa vocation, justement, on distingue, c'est cette fameuse distinction, je dis fameuse, mais enfin, voilà, il y a cette distinction entre vocation interne et vocation externe. Il y a la dimension où, voilà, personnellement, quel est le chemin que je me vois entreprendre? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en gros, qu'est-ce que je me vois faire de ma vie en lien avec la foi? Ça c'est la dimension ecclésiale qui se surajoute, théologique. Et il y a cet élan-là, mais il y a aussi une reconnaissance. Il doit y avoir ça, à cela, au fond, pour que l'engagement puisse y avoir lieu, qui dans ce cas-là mène habituellement à la consécration, mais pour que l'on reconnaisse cet appel, cette vocation, il faut qu'il y ait une reconnaissance, qu'on dit vocation externe, qui sont... Alors on peut le comprendre dans le sens qu'une personne t'appelle et te dit « oui, j'aimerais t'avoir toi chez moi
ouais. »,
mais ça se matérialise concrètement justement souvent dans des processus de formation, dans des discussions, des examens d'entrée... j'allais dire justement des... Comment ça s'appelle? Pas des discussions d'emploi, ça s'appelle un... entretien de candidature, des choses comme ça. Voilà. Donc, tous des processus qui viennent, au fond, acter d'un point de vue extérieur quelque chose qui est d'abord vécu ou, en tout cas, qui trouve une résonance chez la personne. Quoi.
Ouais.
Et c'est vrai que, ben voilà, sans doute que tu es simplement passé par d'autres types de validations que celles qui sont habituelles.
Mais du coup, c'est vrai qu'au moment, parce qu'à la base, c'était ça la question, au moment où je postule dans d'autres cantons pour compléter mon temps de travail, puis qu'on me dit « ah ben non, vous n'êtes pas diacre
ouais. »,
bah moi ça se heurte entre guillemets parce que c'est pas je m'y attendais un peu si tu veux, mais
ça
entre en résonance avec tout ce parcours là qui est un parcours où finalement où des personnes ont laissé la place à au lien plus qu'aux tabelles, si tu veux.
Oui. Ce que j'entends qui est difficile, c'est que par ailleurs, ça crée une dissonance sur ce que tu vis et la reconnaissance de ce que tu vis. Enfin, c'est quoi que je fais, en fait, finalement, du coup, si c'est pas reconnu.
C'est ça.
Ouais, c'est pas reconnaissable. Enfin, est-ce que c'est pas reconnu ? Oui, c'est reconnu localement, comme tu dis, avec les liens, mais apparemment, ailleurs, c'est pas reconnaissable comme
alors,
tel.
C'est reconnu si dans, le sens où, dans le sens où, à chaque fois, j'ai eu un entretien. Mm-hmm. Enfin, on me dit, on me convoque pour un entretien, mm-hmm. mais dans l'entretien, on me dit, mais est-ce que tu es d'accord de faire la formation diaconale ? Et puis moi, à la
question... C'est ça qu'on te...
On m'a posé la question à chaque fois. Est-ce que tu es d'accord de faire la formation diaconale ? Réponse, non, parce que ça me... Déjà parce que ça me... À l'époque, maintenant, je sais plus comment c'est, mais à l'époque, ça me relance dans 2 ans de...
De formation.
De formation théologique. Et puis j'ai pas envie de relire des trucs que j'ai déjà lus à titre privé, mais ça, c'est moi. Hein, et puis, encore dans une formation diaconale où, à l'époque, il fallait quitter les ministères en institution pour aller en paroisse. Oui. Et moi, j'avais déjà expérimenté la paroisse comme animateur jeunesse et je savais que je voulais pas travailler en paroisse. Ouais. Donc ça faisait un ensemble de sacrifices
que
moi, j'étais pas prêt à faire. Ouais. Parce que j'avais un taf, j'avais une situation stable, un CDI. Je pouvais m'occuper de ma famille. Parce que, alors, il faut savoir aussi que je considère que mes enfants... Je suis divorcé. Mmh. Donc, j'ai mes 2 enfants qui ont maintenant 8 et 11 ans. En garde partagée, donc je les ai la moitié du temps. C'est mon premier ministère. Et ça, je n'y déroge pas. C'est-à-dire que ma priorité absolue dans ma vie, mon premier engagement, c'est mon rôle de père. Mmh. Donc, il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Est-ce que les sacrifices familiaux que ça représente, est-ce que je suis prêt à les faire ? Non. Non. Ouais. J'aurais pas eu d'enfant.
Ça aurait été peut-être
la question aurait été différente, les réponses que j'aurais données auraient été différentes. Ouais. Mais dans la situation dans laquelle j'étais, non, j'étais pas prêt à ça. Et du coup, non, je ne veux pas faire le parcours diaconal, je veux pas faire la consécration. Aussi accessoirement parce que je me sens pas appelé à la consécration diaconale. Je suis dans ma vocation, dans ce que je fais, j'ai pas besoin d'un stempf, tu vois, qui vient. Donc moi, j'ai le sentiment d'être dans ma vocation et j'ai pas l'appel.
Vocation intérieure, comme on dit.
Ouais, c'est ça.
Il n'y a pas besoin d'aller encore ailleurs, en gros.
Non, j'ai pas besoin. En tout cas, moi, j'en ressens pas le besoin. Et du coup, on me dit, non, si t'es pas diacre, on ne t'engage pas. Ok, c'est pas de souci. Mais du coup, ça pose la question, en tant qu'église, en tant qu'institution, qu'est-ce qu'on valorise, qu'est-ce qu'on valorise pas,
quoi. Oui, et sans doute, c'est un peu une question... Je l'ai dit d'entrée de jeu sur des profils comme les tiens, ces nouveaux profils professionnels au sein des églises, laïc permanent, animateur d'église, chargé de prédication, enfin bref, quel que soit le terme exactement qu'on mette, c'est quand même la question en définitive de c'est quoi la mobilité professionnelle à laquelle vous vous engagez. Enfin, à la fois il y a un aspect où les églises répondent à un besoin, un manque qu'elles ont.
Ouais.
En même temps, on peut aussi le voir, et ça s'est fait d'ailleurs quand les ministères diaconaux ont été inventés, à un moment donné, c'est de dire, mais en fait, il y a une opportunité. C'est-à-dire que là, il y a un manque, en fait, il y a une opportunité de donner de la place à d'autres profils, d'autres origines sociales notamment des fois, d'autres profils professionnels, d'autres profils culturels d'ailleurs aussi, parce que mine de rien, on est tous très différents en tant que pasteurs, néanmoins on a tous fait l'uni et on est quand même socialisés un peu de manière proche, quoi. On est passés tous par les mêmes filtres, et puis il y a l'hypothèse de se dire, ok, en ouvrant plus large, on s'ouvre aussi à des transformations qui pourraient être fécondes, en fait, à l'avenir.
Mais c'est rigolo parce que ces représentations-là, elles sont aussi mises à l'épreuve. Mises à l'épreuve, on s'entend, proportion gardée. Mais par les patients dans les institutions.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il y a une des institutions dans laquelle je vais, où je dois donner le culte toutes les semaines, les patients m'appellent monsieur le pasteur, tu comprends ? Alors que je suis prédicateur, alors que je suis permanent laïque. Et j'ai dit une fois à une de ces patientes, je lui ai dit, mais vous savez, je suis pas pasteur, je suis pas diacre, je suis laïque. Oui, mais pour nous, vous êtes notre pasteur.
Tu vois. Donc, ça s'en fout de...
Donc, en fait, eux,
le label...
Au niveau de l'institution, au niveau des patients, le stempf, le label qui est donné par l'institution, en fait, c'est pas ça qui est signifiant pour eux, tu vois.
Et c'est aussi quelque chose que je croise constamment avec les diacres dans le canton... Enfin, tu veux dire, dans les collègues diacres, quand je cause avec eux dans le canton de Vaud, ils sont aussi nombreux à témoigner du même genre d'expérience dans la paroisse. Enfin bref,
c'est
que c'est pas vraiment lisible, c'est que j'imagine socialement, en tout cas en Suisse romande, en gros, il y a les pasteurs.
Et c'est intéressant de voir, ça pose la question, tu vois. Ok, institutionnellement, j'entends, tu vois, en termes de rôle, de fonction, mais quand même, ça pose une question existentielle de qui reconnaît quoi, tu vois. Qui est légitime à reconnaître quoi ? Qui est légitime à reconnaître qu'une personne est son pasteur ou pas ? Est-ce que c'est l'institution ? Ou est-ce que c'est personnes qui sont accompagnées locale. Est-ce que c'est la communauté dans laquelle la personne exerce ? Moi, j'ai pas de réponse, hein. Moi, j'ai dit à ces personnes que j'étais laïque, elles m'appellent monsieur le pasteur, je vais pas commencer à faire non, mais... Il me considère comme le pasteur, Tu vois, c'est ok, il n'y a pas de souci.
Je pense que c'est une tension, en tout cas traditionnellement dans le milieu réformé roman, ailleurs aussi on dit système presbytéro synodal, mais le système vise à dire qu'en fait il y a une importance accordée au local et en même temps il y a des reconnaissances qui sont distribuées à un niveau supralocal,
ouais.
synodal. Bon, ça, c'est le système tel qu'il est donné, qui tend quand même à, notamment pour les ministères consacrés, à mettre l'emphase particulièrement sur ces ministères supralocaux, enfin, sur une reconnaissance supralocale de ces ministères-là, qui fait qu'ils ne sont pas dépendants uniquement d'une reconnaissance locale. Et en même temps, il y a l'idée qu'on peut reconnaître au niveau local des choses. Quand j'entends ton histoire, je me dis, c'est comme si justement cette institution, et puis du coup, ben, il se trouve qu'il y avait un conseil synodal dans cette institution, c'est comme une église locale qui reconnaît une vocation à une personne qui est là,
ouais.
et qui dit, ben, tiens, on va te faire de la place pour que ça se déploie, et ça va être fécond pour nous, et pour l'évangile, et pour tout un tas de trucs. Et puis là, tout d'un coup, il y a comme un transfert qui a lieu, et qu'est-ce qui se passe maintenant,
ouais.
en gros, hein, une fois que ce transfert a eu lieu. À nouveau, question sur lesquelles les églises sont en train de travailler en ce moment-là, avec, je pense, notamment l'enjeu de clarifier, ou non, je ne sais pas si elles vont réussir à clarifier, l'avenir le dira, mais ces statuts. Ouais. Donc on est sur l'enjeu des statuts, on est sur l'enjeu sur la reconnaissance d'un chemin personnel, sur les contradictions que ça arrive, ça c'est quand même des dissonances hein, qui ressortent, c'est... Ah ben là, on en parle de manière détendue, mais j'imagine que c'est pas toujours évident. Enfin, tu as dit que c'était pas toujours évident, ces dissonances, comment elles se reflètent chez les collègues d'ailleurs aussi. Comme, bah, tu as dit, tu as parlé des collègues, tu as parlé des autres églises qui du coup ne reconnaissent pas ce que l'RN a décidé. Enfin, en tout cas, ne peuvent pas comme ça reconnaître ce qui a été décidé au
la
sein de l'RN.
La question, elle se pose aussi dans le travail œcuménique, en lien avec les collègues abbés, curés, les bénévoles catholiques, tu vois.
Ouais, donc là aussi, la lisibilité de ton poste.
C'est clair. Qui fait que, par exemple, en tant que laïc, dans un culte, une célébration œcuménique, ça peut m'arriver de porter la robe blanche, la robe
débaptisée. Mais effectivement...
Ok, j'ai la délégation... Alors, c'est une question qui a été posée, hein. J'ai posé cette question au conseil synodal, de dire, est-ce que je suis légitime en tant que... On dit, oui, t'as reçu la délégation pastorale, donc tu es légitime à la porter. Mais tu vois, comme quoi, il faut porter un vêtement pour... être reconnu, alors pas par les bénévoles qui sont en place, mais par la caste sacerdotale, pour qu'il y ait une reconnaissance, parce que le vêtement atteste, là où la délégation pastorale et où je viens en t-shirt avec mes tatouages et puis mes têtes de mort, bah là, non, tu vois, là, c'est pas légitime.
Il y a un parallèle pour à faire de moi ce que je connais dans les rencontres œcuméniques internationales sur le plan réformé.
Ouais.
Il y a pas mal de présidents d'église maintenant en Europe. Bah, notamment nous dans l'église évangélique réformée de Suisse, on a une présidente, mais d'autres, c'est le cas aussi dans d'autres églises en Europe. Et puis, chez nous, quand on est entre nous, on n'a pas de vêtements particuliers. En pasteur, bah, quand on a des événements, on s'habille bien, on se met en costard. Bon, éventuellement, ou pas, hein, d'ailleurs, ça dépend un peu des personnalités, il y a de la marge de manœuvre. Mais quand on va rencontrer d'autres églises réformées par le monde, tu vois tout de suite qu'il y a un autre dress code à mettre en place.
Ouais.
Il y a des codes romains, des cols romains qui apparaissent tout d'un coup.
Oh, wow.
C'est-à-dire que les pasteurs... ces pasteurs, ces présidents d'église vont mettre un habit qui fait penser un peu à une tenue épiscopale, alors pas complètement, mais où on voit que tout l'enjeu de l'autorité en fait, et du statut ne se négocie pas de la même manière tout d'un coup quand on change de contexte, ouais. alors qu'on est encore dans la même famille confessionnelle. Hein. Je ne suis même pas en train de dire, c'est le cas quand on est, je ne sais pas, on va rencontrer des évêques peut-être, mais c'est aussi le cas quand on va rencontrer d'autres milieux réformés ailleurs dans le monde. Enfin bref, pour dire que j'entends une résonance à ce niveau-là sur la question du statut, mais qui là se double dans ton cas avec une question des conditions d'emploi, en fait.
Par rapport aux personnes versus tabelles, là, statut versus personne, ça c'est quand même assez flagrant en EMS. Tu vois, je dis, il m'appelle monsieur le pasteur, etc. Mais en fait, ce qui montre en fait que les tabelles sont absentes de la reconnaissance, c'est aussi l'arrivée dans le milieu. Parce que moi, quand je suis arrivé dans cette EMS-là, on m'appelle monsieur le pasteur, c'était en plein été, canicule, moi je supporte pas la chaleur, hein, donc short, t-shirt, basket. J'arrive là-bas, donc du coup, short, t-shirt, basket, c'est des Adidas ou des Puma. J'ai ma chienne avec moi, parce que je prends ma chienne dans les EMS, en psychiatrie, elle m'accompagne partout. Du coup, quand j'arrive là-bas, j'ai pas la dégaine de ce qu'on attend d'un aumônier. Tu vois, y a même des fois des quand je me suis présenté comme l'aumônier, il y a des gens qui ont éclaté de rire.
Ah.
Et quand ils ont vu que je rigolais pas, ils disaient, ah mais vous êtes sérieux? Je dis, oui,
oui, mais c'est vraiment moi.
Et puis il y a comme ça une espèce de latence qui se fait entre le moment où j'arrive, où les gens voient ça, tu vois, les personnes âgées, hein, voient, ok, il a des tatouages, il a une chienne, il est en short t-shirt, il célèbre le culte comme ça, mais c'est bizarre. Et puis en fait, c'est drôle parce que il y a un espèce de mouvement qui se fait, et les personnes qui sont a priori les plus virulentes vis-à-vis de ce que je renvoie comme image sont celles qui sont aujourd'hui, après plusieurs mois d'exercice dans cet endroit-là, qui sont le plus attachés à moi et à ma chienne. Une dame qui au début trouvait scandaleux que je vienne avec ma chienne pour célébrer un culte, et maintenant qui râle si ma chienne ne va pas s'asseoir à côté d'elle pendant le culte. Tu vois, et là, la reconnaissance, elle est totale. Hein, parce que là, on n'a pas reconnu un parcours, on n'a pas reconnu des tabelles, on n'a pas reconnu... Ils m'ont vu, ils m'ont entendu célébrer des cultes, ils m'ont reçu pour des visites, et puis la reconnaissance, elle est sur qui je suis. Tu vois, il n'y a pas la question de... Alors, il y a un bout... L'Église l'envoie, on reconnaît que l'institution l'a envoyé et que tu vois.
Il y a a priori une reconnaissance de l'institution, ne serait-ce que par la délégation pastorale qu'elle te confie. Donc,
mais disons de la part des personnes, de dire ok, si l'Église l'envoie, c'est que tu vois, peut-être il doit y avoir un bout de ça, mais il y a quand même, moi je sens qu'il y a une forte,
il y a une relation
ça
positive,
s'ancre dans la relation puis dans le lien plus que dans la dans les tabelles quoi.
Peut-être je vais nous orienter gentiment vers un peu pas tout à fait encore la fin, mais gentiment vers le mouvement de clôture de notre rencontre.
Est-ce que je peux d'abord souligner un dernier enjeu, mais très court,
vas-y.
Que ça soulève, c'est pour moi la question de l'inclusivité, de moi dans l'institution.
En tant que personne,
en tant que personne ou en tant que type de personne, tu vois. Parce que le président du conseil synodal, quand il m'a engagé, il a dit une chose que j'ai trouvé vraiment intéressante, puis je trouve qu'elle est bonne à réfléchir. Il a dit, on a besoin de profils comme Jérôme, mais on sait qu'il va pas faire notre vie avec nous. Sous-entendu, on sait que voilà, il débarque dans l'Église, il a 36 ans, il s'est construit avec une autre sous-culture alternative, avec d'autres codes.
C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais nous on se voit là, mais disons que t'as un background dans les milieux du hard, du métal.
Ouais, bah j'ai plutôt grandi, j'écoute du hard, j'ai fait de la musique, puis on allait plutôt jouer dans des squats, hardcore, punk hardcore. Tatouage, barbe, cheveux longs. C'est vrai que les vêtements que je porte sont en général... Ça aussi, ça a été... c'est toujours questionné de la part des collègues. Est-ce que vraiment ton vêtement avec ces visuels un peu... têtes de mort, des typologies un peu gore, des typographies un peu gore, groupe de black metal. Ouais. Donc quand il dit ça, il accepte, si tu veux, cette idée de dire on sait qu'il ne va pas faire... sa vie avec nous. Et d'un côté, ça m'enlève une pression de me dire « Ok, cool, parce que ça veut dire on m'engage pour un profil qui a été reconnu. » Mais en même temps, c'est aussi un aveu de dire « On n'est pas capable d'intégrer des personnes comme lui. »
Ou du moins, a priori, pour l'instant, c'est pas comme
ça.
En tout
cas, pour l'instant,
quoi.
Voilà. Quoi. Et c'est vrai que les... Alors, j'ai rien contre la forme, disons, le réformé, si tu veux. Pas du tout, vu que moi-même, je la pratique dans les cultes que je célèbre en institution, tu vois.
Et puis, tu as dit au niveau même de la théologie, où tu étais un petit peu plus proche que, en tout cas, du milieu évangélique dans lequel tu étais au départ.
Ouais. C'est clair. Mais par contre, c'est vrai que en termes d'inclusivité, c'est cette parole-là, qui en même temps est valorisante, parce qu'on me reconnaît avec mon profil et ma singularité, et en même temps, je me dis, ok, mais en même temps, en disant ça... est-ce que il n'y a pas aussi la parole de dire on n'a pas forcément besoin ou envie de l'intégrer à la vie de l'institution, tu vois. Pour moi c'est compliqué parce que je me suis construit avec tout autre chose et puis une acculturation, tu vois, une culture qui n'est pas la mienne à 36 ans, avec en plus mon rôle de père de famille qui me prend toute mon énergie, enfin toute une bonne partie de mon énergie sur mon temps libre et tout. Dans quelle mesure est-ce que c'est possible ou pas, tu vois. Ça pose juste la question de l'inclusivité. Parce que si c'est compliqué comme ça pour moi, je fais juste le parallèle avec mon mandat en psychiatrie où on me demande d'intégrer des personnes me demandent à être intégrées dans des collectivités, des communautés spirituelles.
Oui, j'imagine qu'il y a une attente ecclésiale dans ce sens-là.
Il y a une attente ecclésiale, mais sauf qu'on est avec des personnes qui ont parfois des comportements qui peuvent être qualifiés de dérangeants, de bizarres, des personnes qui parlent fort, des personnes qui font des choses qu'on ne s'attend pas à ce qu'elles fassent. Pour avoir célébré des cultes en psychiatrie hospitalière, il faut être large, quoi. Il faut être large d'esprit, puis laisser...
Et flexible sur ce qui se passe,
ça,
quoi.
Donc, il y a un enjeu à ce niveau-là, par rapport à mon engagement, et puis à comment est-ce qu'il a été perçu, ou comment j'ai pu être et m'intégrer à l'institution. Ça pose la question de personnes pour qui c'est plus précaire, quoi.
Et qui ouais, et d'ailleurs pas que pour l'Église, en fait, pour la société
de manière générale.
Générale, c'est clair. Wow. Ouais, donc trois enjeux. On a dit le statut, la reconnaissance de sens large, mais liée à la formation notamment. Et puis, cette question de culture qu'on aborde un peu rapidement, mais ok. Du coup, par rapport à ça, Je ne sais pas dans quel sens vont aller les églises à l'avenir. On verra. Donc, on pourra refaire cette même discussion dans 5 ans. Voilà, toi qui arrives au milieu de ça, on va dire, sans respecter les standards. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de standard pour ton récit. Ton récit n'est pas dans les standards, si tu veux. Et en même temps, je trouve que, sans doute que, oh là là, les découvertes de vocation qui ne suivent pas les récits standards, ça existe aussi dans les écritures, ça. Enfin, bref, pour le coup, c'est peut-être plus ça le standard, justement. Qu'on n'est pas dans les clous et puis il se trouve qu'on est quand même reconnu pour faire quelque chose quoi et porter quelque chose d'un Dieu qui dépasse encore des cases dans lesquelles on essaie de le mettre. Enfin bon, à partir de là et de ce qu'on a dit, quelles sont des pistes de développement que tu vois? Parce que les églises vont continuer à travailler sur ces profils. Quelle serait une piste de développement, un encouragement, un souhait, un vœu que tu pourrais adresser ou que tu pourrais t'adresser à ton toi qui débarquerait maintenant, tu vois? Si j'étais RH de cette église, je vais le reformuler encore comme ça, tiens, qu'est-ce que je ferais?
L'engagement que j'ai eu en addictologie, là, celui où j'avais zéro prérequis, en termes de récit fondateur, si on va dire ça, pour moi, il est extrêmement signifiant. Parce qu'en l'occurrence, on a, je crois que des personnes ont... Moi, aujourd'hui, j'ai le sentiment d'être à ma place, si tu veux. En tant qu'accompagnant spirituel, dans des institutions touchées par la question de la psychiatrie, psychogériatrie, psychiatrie ambulatoire, moi, j'ai l'impression d'être pleinement à ma place. Cette place-là, elle a été vue à une époque par des personnes, où moi j'en avais pas conscience quand je postule au départ, par des personnes qui sont pas à l'institution, qui sont des gens, des personnes qui me disent « on te verrait bien faire ça », donc il y a des gens qui voient que ça pourrait être pour moi, et par un directeur et une responsable de l'aumônerie qui se disent « ah ben c'est vrai, il a aucun prérequis, mais on voit chez cette personne quelque chose que peut-être même moi je voyais pas encore, si tu veux. Si j'étais RH aujourd'hui, peut-être que c'est ça que j'essayerais de discerner, parce que là, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que les gens se sont pas dit qui coche les cases sur les tabelles pour être engagé. Ils se sont dit qui est-ce qu'on verrait dans cette fonction-là. Et en fonction de là où il en est, quelles cases, si les cases, elles sont bien, mais a posteriori, quelles cases il faut cocher pour que cette personne ensuite puisse se déployer dans son
C'est les propositions de formation, c'est les indications à donner.
Et puis c'est ce que je disais, là, la personne m'a dit très clairement, je t'engage seulement si et seulement si, après ton engagement, tu t'engages à X, Y, Z, faire toutes ces formations-là. Ce que j'ai fait, et il se trouve que, pour le coup, c'était le bon choix. Donc du coup, en tant qu'RH, si j'étais moi RH, évidemment que les tabelles, c'est important, et puis que les CV, les parcours de formation, les parcours professionnels, l'expérience, en fonction du milieu dans lequel on est. Si tu veux, moi, je comprends qu'il y ait la volonté, qu'il y ait la formation théologique et tout ça, mais peut-être que s'achoper là-dessus, comme ça a été le cas pour moi quand j'ai postulé à d'autres places. Peut-être que c'est ça le truc auquel il faudrait faire gaffe en tant qu'institution. Pas s'achoper sur des... Qu'il y ait des prérequis à la base, c'est bien. En fait, je vais reprendre la phrase de ma superviseuse quand j'ai fait mon CPT au CHU. Elle disait, il y a le cadre et il y a la vie, si tu veux. Oui, il y a un cadre. Il y a un cadre, il y a des tabelles, il y a un truc prédéfini. Mais des fois, quand ça déborde, il faut aussi se permettre d'explorer puis voir si... Malgré le fait que ça déborde du cadre, ça peut pas aussi fonctionner, quoi.
Jérôme ne l'avait pas dit au moment de l'entretien, mais la superviseuse dont il parle était Cosette Audier. Une personne qui a joué un rôle crucial dans la transformation de l'accompagnement spirituel en milieu de soins, permettant notamment son ouverture à d'autres parcours professionnels que ceux liés au ministère consacré en Église. Cet épisode visait à ouvrir une lucarne sur les évolutions des profils professionnels en Église, à partir d'une perspective que l'on n'entend pas toujours. Ça nous a permis de voir des opportunités, mais aussi des tensions et contradictions générées par ces évolutions. Peut-être que l'épisode vous a interpellé sur un point ou sur l'autre. Peut-être qu'il vous a donné envie de partager votre propre expérience, vos propres réflexions sur le sujet. N'hésitez pas à le faire en commentaire sur nos différentes plateformes ou à me contacter directement par mail à l'adresse helio.jaillet@evref.ch. Si cet épisode vous a intéressé, abonnez-vous à nos canaux de diffusion, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcasts, ou à notre lettre de nouvelles sur le site eks-ers.ch. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao !